Les rencontres artistiques d'Antenne Doc. La galerie Atelier Simès de Figeac expose les œuvres d'une trentaine d'artistes professionnels et celles des élèves de l'atelier. Cette exposition est à la salle Baleine du 23 mai au 6 juin et vous pouvez la découvrir tous les après-midi. Christine Robion est l'invitée d'honneur de cette exposition. Quel invité, quel honneur et quelle chance pour Antenne Doc, parce qu'on a pu la rencontrer au moment de l'installation. Comme vous pouvez entendre derrière, il y a tous les bruits de tous les artistes qui sont en train d'installer. Ce lundi 22 mai, à ce moment si particulier de l'installation des œuvres dans la salle d'exposition. Christine Robion, bonjour.
Bonjour Claire.
En ce moment, vous habitez Paris. Bienvenue à Figeac.
Je suis très très heureuse d'être à Figeac, où je n'étais jamais venue, mais j'ai déjà entendu beaucoup parler de cette ville qui m'a déjà invitée l'année dernière, parce que Dany Fory m'a proposé d'exposer quelques toiles.
Oui, on vous a déjà découvert l'année dernière. Comment êtes-vous devenue peintre, ou est-ce qu'on peut dire plasticienne ?
On peut dire plasticienne parce que plasticienne, c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de matière, à la matière. Donc, je touche à la matière et mes toiles sont en général lisses et plates, mais il y a quelquefois des reliefs parce que je peux raconter des histoires sur des boîtes d'allumettes, par exemple, et les mettre en situation. Et sur ces boîtes d'allumettes, il y a aussi des morceaux, il y a des dessins et des textes parce que le texte fait partie, la calligraphie, donc je suis bien, je suis très heureuse d'être à Figeac, parce que je pense à mon très noble prédécesseur. La calligraphie fait partie de mon œuvre.
D'accord. Et donc vous êtes, j'ai un petit peu regardé sur Internet ou lu des articles qui sont parus sur vous. Vous dites que vous avez toujours peint, vous avez toujours, été dans cet univers-là, en tout cas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, par intermittence, je dois dire, parce que je suis vraiment née en pensant que j'allais devenir peintre pour reprendre le flambeau de ma pauvre maman, enfin, qui est quelqu'un de merveilleux et qui vit toujours et qui est très, très gaie, mais qui avait fait les beaux-arts, enfin, qui est entrée, mais qui n'a pas pu en sortir à cause de son mariage. Donc, mon père était quelqu'un de terrible, qui avait très peur qu'on lui pique sa petite fiancée. Donc, il lui a interdit de finir son année scolaire. Le mariage était fixé, et voilà. Et ma maman a toujours eu une boîte de peinture que j'ai utilisée ensuite, mais elle n'a plus jamais eu le temps de peindre. Donc, je me suis dit, je deviendrai peintre. Et mon père s'est opposé à ça. Donc, je suis partie en Allemagne, j'ai fait des études différentes. J'ai appris beaucoup de langues. Ça revient aussi dans ma peinture. Et j'ai un peu oublié les beaux-arts. Donc, j'ai jamais fait les beaux-arts. Mais en Allemagne, j'ai appris l'allemand. Donc, j'ai fait une licence d'allemand. J'ai monté une imprimerie de sérigraphie où j'ai exposé mes premières œuvres. Donc, l'écrit déjà, tout ce qui est impression fait partie de ma démarche.
Il faut dire que si je me prête au jeu de la description, je dirais que vos tableaux, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont absents, sont de formes déjà, de formats très différents. Donc il y a des petits formats, des grands formats, des encadrés, des pas encadrés. Et on y trouve une dominante de bleu, souvent. Et on y trouve aussi souvent deux parties. Une partie qui pourrait être l'illustration, et l'autre qui pourrait être l'histoire avec une écriture codée qui serait faite de symboles. En tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que l'écrit est fort présent. Quelle est la genèse d'un tableau chez vous et quelles sont les étapes de réalisation? Quel support et quelle technique vous utilisez? Parce que c'est vrai qu'on voit plein de choses. On voit pas que de la peinture. Effectivement, il y a des boîtes d'allumettes, il y a des bouts de carton, il y a des choses assez brillantes.
Il y a
beaucoup de questions dans ma question,
oui,
en fait.
Attention. Déjà, quand vous dites les toiles qui sont pas là, vous pensez à quelle toile?
À celle qu'on peut découvrir sur Internet ou celle qu'on a vue l'année dernière, par exemple.
Oui. On voit peu de choses sur Internet. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que mon site est en train d'être refait, donc on voit plus grand chose. Mais c'est vrai qu'une toile, d'abord, elle est construite. J'ai l'air vraiment de partir dans tous les sens parce que je fais, on me dit que je fais trop de choses. Mais tout revient en fait à, toujours à une chose cadrée. Donc mes toiles sont souvent carrées d'ailleurs. J'aime le cadre. Et j'aime ramener les choses dans une synthèse. Même si je pars d'éléments divers, ça sera toujours ensuite ça formera un tout. Donc je raconte une histoire. Chaque toile est... Quand on la regarde de loin, on voit un ensemble. Mais quand on regarde de près, tous ces petits carrés, ces petites images, ce sont des histoires dans l'histoire. Donc, pour une exposition, en général, il y a un thème. Et dans le thème, d'autres thèmes secondaires sont développés.
Justement, ici, vous avez sélectionné combien de toiles? Et comment vous les avez sélectionnées?
Alors, en fonction de l'espace, mais je me suis un peu trompée parce qu'il est immense, mais en fin de compte, il faut faire une sélection. Une sélection et faire des choix. Moi, je préfère un accrochage dépouillé parce qu'un accrochage, c'est une mise en scène, c'est une scénographie, même une chorégraphie. Donc, il faut que les toiles se sentent bien les unes avec les autres et qu'elles se racontent quelque chose, qu'elles ne se gênent pas. Donc, je vais revenir avec beaucoup de toiles à Paris et je vais peut-être en laisser aussi à la galerie Simez.
Donc, en fait, vous arrivez avec plus de toiles qui ne seront exposées, et en fonction de l'espace et de comment vous pouvez les agencer, en fait, vous les placez les unes à côté des autres.
C'est ça.
C'est ça.
Tout à fait. Je fais ça. Et je les ai choisies quand même là en fonction de l'actualité. Parce que la dernière histoire racontée, à chaque fois que je monte un projet, je pense en 2012, j'avais été invitée à Vienne, j'avais carte blanche pendant un mois pour monter un projet que je devais expliquer en une soirée. Donc je suis arrivée avec un manuscrit. Pendant ce mois, j'ai corrigé mon manuscrit et j'en ai fait le thème de mon exposition. Alors je suis partie d'une petite histoire toute banale, vraiment une histoire d'une petite injustice que je peux raconter en quelques mots si vous voulez.
Allez-y, un fait divers.
Je joue du violon, je prends des cours de violon avec un professeur que j'aime beaucoup et ce professeur était enseigné au conservatoire à Paris. Et elle a perdu son poste. C'était une très jolie femme. Elle a perdu son poste et on me dit oui, tu sais, elle a tourné dans des films porno. Bon, alors pendant 2 ans, j'ai pris des cours de violon avec une personne dont je croyais qu'elle avait tourné dans des films porno. Bon, au bout de 2 ans, un jour, j'arrive à mon cours et je lui dis au fait, tu sais pourquoi t'as été virée du conservatoire? Elle me dit non, je sais pas. Un jour, j'ai perdu mon poste, je sais pas pourquoi. Je lui ai parlé de cette histoire. Elle en est tombée sur le cul, c'est le cas de le dire. Elle m'a dit, mais je n'ai jamais tourné dans un film porno. Elle était effectivement comédienne. Elle m'a dit, moi, j'ai tourné pas plus de scènes osées que d'autres. Voilà, que Isabelle Huppert, elle était moins connue, mais enfin, elle avait déjà une petite renommée. C'était une personne très, très douée. Alors, cette histoire, je l'ai racontée, mais sans vouloir en faire. Je l'ai racontée, je l'ai écrite. Oui. Je suis arrivée à Vienne avec cette histoire, et je lui dis, tiens, je vais en faire le thème de mon exposition à Vienne. Donc, je travaille, je fais des toiles sur une petite injustice, et je suis arrivée dans mes bagages avec un livre que j'avais commencé à Paris, et qui se finissait à Vienne, parce que c'était l'histoire d'une famille, la famille Efroussi, qui a un hôtel particulier à Paris et qui avait aussi un hôtel particulier à Vienne. Alors l'hôtel particulier à Paris, ça me touchait beaucoup parce que c'est dans ma rue, la rue de Monceau. Et l'hôtel particulier à Vienne, c'était un immense palais. J'arrive à Vienne, je recherche le palais Efroussi que je retrouve, un immense palais, mais il n'y avait pas une seule plaque. Et pas sur cette famille dont tous les membres avaient été dispersés pendant la guerre. Quand je dis dispersés, c'est qu'ils sont peu revenus. Et au cours de mes pérégrinations, je vois que le maire antisémite, très antisémite de Vienne à l'époque, qui s'appelait Karl Wegner, il avait lui sa plaque sur plusieurs, sur une place, sur une, ce qu'on appelle un ring. Et je fais cette remarque. Je pars d'une petite enjeu, enfin, je pars de l'histoire d'un petit prof de violon qui perd sa place et je la compare à une immense injustice, c'est-à-dire que la ville de Vienne n'est pas capable de rendre hommage à une famille qui a été complètement décimée. Donc j'explique ça, Donc mon manuscrit a pris une certaine ampleur en quelque sorte, et le thème dans mon exposition aussi. Ce manuscrit existe, je ne l'ai pas publié par contre, mais l'exposition a eu lieu et j'ai pu expliquer mon propos et j'ai eu beaucoup beaucoup de succès à Vienne, alors où j'ai parlé à des Viennois qui m'ont comprise et bien entendu.
Pour le coup, c'est sur Internet là, on voit plusieurs vidéos avec une musique de Mozart derrière,
Voilà, cette vidéo est sur Internet. Mais l'histoire, le son, finalement, je l'ai laissé tomber. L'histoire, j'ai laissé tomber. Oui. Je la publierai peut-être un jour, mais là, pour le moment, ça ne l'est pas.
Et donc, c'était un moment où vous étiez à Vienne en résidence, c'est ça?
Oui.
On peut appeler ça comme ça?
Tout à fait, en 2012, oui.
D'accord. Ouais. Parce que justement, je voulais revenir un petit peu. Vous avez séjourné et travaillé à Chypre, en Grèce, aux Antilles, au Burkina Faso, au Liban, aux États-Unis. Et j'en oublie sûrement parce que justement, peut-être on ne trouve pas tout sur Internet. Et qu'est-ce que vous avez ramené de ces pays? Et déjà, est-ce que vous savez ce que vous avez ramené de ces pays ou est-ce que ça vous nourrit malgré soi, en fait? Est-ce que ça nous nourrit malgré soi, toutes ces traversées?
C'est une bonne question. Alors, je n'ai pas habité les États-Unis. Hein. Je n'ai fait que exposer parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'être entourée par un agent qui croit en moi et qui habite New York.
Mais ça aide.
Ça aide, oui. Mais bon, j'ai habité 4 ans et demi à Chypre et 5 ans à Athènes. Pas à la suite, mais enfin, ça fait quand même 10 ans de ma vie, presque 10 ans. Donc, la Grèce m'a vraiment habitée. Et donc, les bleus. Les bleus viennent de là. La mer, voilà. Et puis le monde grec. Et ce séjour en Grèce m'a aussi mis en selle pour apprendre des langues de façon, en y croyant et en m'apercevant que c'est possible et on peut les employer. Parce que je suis arrivée à Chypre, j'avais du mal à placer ce que j'avais appris en grec, parce qu'on me répondait en anglais. Mais quand je suis arrivée à Athènes, là, je parlais vraiment bien. Et là, j'étais accueillie aussi en tant qu'artiste française, mais introduite dans les milieux grecs.
Oui.
Alors déjà,
peut-être
ça, c'est
plus cosmopolite, peut-être, à Athènes.
Oui. Et bon, autrement, ce que j'ai ramené de tous ces séjours, c'est souvent... tiens, j'aurais pu rester plus longtemps. Mais finalement, c'est vrai qu'au Liban, j'ai passé 3 ans par intermittence. Mais je n'ai pas... Par contre, j'ai commencé à apprendre l'arabe à ce moment-là et j'étais un peu troublée parce que j'ai commencé aussi à apprendre l'arménien parce que le professeur de violon de mon fils, cette fois, était arménien. Donc j'ai un peu confondu ces deux langues dont je n'ai rien fait. Donc c'est un peu... je ne suis pas allée au bout. Tu peux aller au bout de cette affaire.
Rien fait, je ne sais pas, parce que moi, dans vos tableaux, je sens un amour des langues, et au moins du langage. Et peut-être qu'on retrouve dans les petits carrés, justement, qui racontent l'histoire en petit ou en plus grand, peut-être une forme d'iconographie, ou en tout cas une forme de mots et d'idées par les symboles et par le petit dessin.
Alors, non ? Oui, alors ça, c'est tout à fait vrai. Alors là, justement, la dernière langue pour laquelle je me passionne, mais alors je ne suis pas encore allée dans le pays, c'est le bengali. Alors, je donne des cours, je l'ai fait pendant 2 ans de manière très suivie, c'est-à-dire que c'était deux fois par semaine, donc des cours qu'il fallait quand même préparer, ça me prenait beaucoup de temps, à des migrants. Mmh. Et parmi ces migrants, j'étais très très touchée par des jeunes hommes qui venaient du Bangladesh. D'abord parce qu'ils avaient l'air d'enfants. C'est vrai que ce sont des gens, quand on voit des films indiens, c'est que les gens ont l'air tellement jeunes. J'ai l'impression que nous, on est une vieille civilisation. Ouais. Donc, un petit jeune homme est venu vers moi, qui aurait pu être mon fils, qui avait l'âge de mes enfants. Et il m'a dit, vous pouvez m'aider, madame?
Alors, vous donnez des cours de français?
C'est du français, okay. Le français des migrants. Là, je peux pas dire que je le donne encore parce que j'ai tellement de choses à faire. J'interviens uniquement pour les remplacements. Mais je le fais. D'accord. Donc j'ai toujours beaucoup beaucoup de autour de moi parce que de contacts. Alors j'ai gardé parmi ces amitiés du Bangladesh, j'ai gardé quelques jeunes amis qui m'ont beaucoup apporté. Et là, j'ai raconté l'histoire de ce jeune homme. D'accord. Ce jeune homme, je l'ai aidé comme j'ai pu, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver du travail, mais ce n'était pas trop évident parce qu'il n'a pas de papier. Et je lui dis, raconte-moi ton histoire. Alors, cette histoire, je l'ai racontée. Et en 2013, j'ai fait une exposition sur cette histoire d'un jeune migrant à Paris.
Comment on arrive à Paris?
Quelle galère. Enfin, c'est une vraie galère.
Confrontation aussi avec la culture.
Oui, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de papier, on va pas leur donner comme ça, mais on va pas les expulser non plus. Parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus rudes. En Angleterre, on vous chope, on vous jette. Ouais, voilà. Ouais. Alors qu'en France, je l'ai accompagné à la préfecture, j'ai entendu ces mots. Monsieur sait très bien qu'il n'a pas le droit d'être ici, mais on va pas non plus l'expulser. Voilà. Donc cette histoire je l'ai racontée, mais c'est pas seulement c'est son histoire à lui, c'est aussi mon histoire, ma rencontre et l'histoire aussi d'un malentendu, parce que finalement je n'ai pas pu faire grand chose et je suis pas sûre. Maintenant, le livre que j'ai écrit et qui maintenant est publié s'appelle La vie rêvée de Chotan B. Il n'a toujours pas ses papiers.
Oui.
Donc voilà, c'est une histoire qui est belle parce que ce que lui m'a appris m'a fait changer aussi mon point de vue sur beaucoup de choses. Et moi, je pense que je lui ai apporté aussi beaucoup de choses. Et alors lui m'a aussi incité, je lui ai dit « apprends-moi quelques mots de Bengali ». Il n'a pas su vraiment, il n'a pas compris ce que je voulais. Mais il m'a donné cette idée que je suis allée plus loin et je me suis inscrite à ce qu'on appelait l'ANGZO avant, c'est maintenant l'INALCO, pour apprendre le Bengali.
D'accord.
Donc je suis là en première année de licence de Bengali et je travaille mes examens de façon très sérieuse.
Donc un amour de la langue. Et du coup, à Simez, là, l'exposition qui a lieu, donc je le rappelle, du 23 mai c'est-à-dire demain en fait, au 6 juin, c'est peut-être, vous allez piocher dans plusieurs expositions. Donc du coup, on va retrouver peut-être plusieurs histoires finalement, non?
C'est vrai. Oui. C'est vrai parce que là, cette exposition, moi je veux qu'il y ait une unité, mais pour Figeac, j'ai pas donné de thème.
Voilà.
Par contre, j'ai pris dans cette histoire, La vie rêvée de Chotan B, j'ai pris quelques références, c'est-à-dire quelques petites histoires, c'est-à-dire quelques petits tableaux que je présente dans un ensemble. Donc, il y a un pavé de 16 petits tableaux ce sont des ce qu'on appelle des visuels qu'on retrouve dans le livre.
D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité, justement, de ce livre? Vous nous avez autorisé, en TEDDoc, à lire un extrait. Mais est-ce que vous pouvez... Alors, vous avez raconté l'histoire de ce livre, en fait.
Voilà, c'est vrai. J'ai raconté. J'ai peut-être pas tout dit, mais c'est vrai que parler de livre, je ne le faisais pas volontiers avant, parce que dire qu'on est écrivain quand on est plasticien, c'est pas... Je trouve que c'est un peu déplacé. Mais là, comme c'est le quatrième livre que j'écris, qui est publié, je dis, bon, je peux quand même un peu sortir du fourré et dire, ben oui, j'écris.
Je suis écrivain.
Et je préfère encore, pour certaines professions, le masculin.
Ça heurte moins l'oreille.
Et je suis d'autant plus heureuse de le dire que j'ai trouvé un éditeur qui croit en moi et avec qui, c'est le deuxième livre qu'il publie de moi. Le premier avait aussi un rapport avec l'écriture. Ça s'appelait La petite fille de la photo. Et ce livre-là, c'est un livre objet. C'est-à-dire qu'il a réussi, on a réussi pour un prix modique à faire un vrai livre qui raconte une histoire, un petit roman en quelque sorte. Mais que ce soit pas vraiment un roman, c'est plus un récit qu'un roman. Mais on a pu insérer aussi une vingtaine de peintures et qui répondent très bien, qui parlent du sujet et que j'ai conçu en pensant à cette histoire.
Et peut-être que c'est le livre qui nous fait comprendre votre œuvre, plastique en tout cas.
Oui, tout à fait. Je crois qu'en me lisant, on retrouve, en lisant l'écrivain, on retrouve
la plasticienne. Et vice-versa, sûrement.
Oui, oui, peut-être, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le titre ?
La vie rêvée de Chotan B. Chotan, c'est un prénom qui veut dire Chota en bengali, ça veut dire petit. Et c'est vrai qu'il portait bien son prénom, il avait l'air d'un môme.
Où est-ce qu'on peut retrouver votre actualité, Christine Robion ?
Alors, j'ai un site internet, mais qui est en train d'être réactualisé. Mm-hmm. Autrement, je ne sais pas. Quand on tape Google, je suis contente de trouver des tas de choses.
ChristineRobion.fr.com, on vous trouve.
Robion, www.robion.com, je crois.
Ouais, d'accord. Bonne exposition et merci beaucoup d'avoir fait ce détour à Figeac.
Merci Claire.
La vie rêvée de Chotan B. Ma peinture procède d'un relevé de traces discrètes ou anodines, partie d'une anecdote, d'un filet de vie prêt à s'effacer, je construis par une intervention bénigne un monde d'icônes multiples où chaque détail prend un sens dans un kaléidoscope de lecture possible. Deux fois par semaine, j'enseigne le français à des étrangers, souvent sans papier, parfois en grande difficulté. J'ai écrit l'histoire de Chotan B, qu'il m'a racontée petit bout par petit bout, en cours et après le cours. Le texte m'a inspiré le travail que j'ai présenté du 3 octobre au 13 novembre 2013 au Café du Métro, 67 rue de Rennes, à Paris. Chotan est issu de la minorité bouddhiste au Bangladesh. Demandeur d'asile, sa requête a été rejetée. Il est maintenant sans légitimité sur le territoire français. Sa vie est un ensemble à construire où chaque détail prend un sens. Christine Robion, 2015.
Page 83, visite au Louvre le 17 mai. Aujourd'hui, j'ai conduit ma classe au Louvre. Tatiana, Dinesh, Vazanta, Nadan, Christian, Mokhtar, Udayan et Chotan. La veille du cours, j'avais effectué un repérage. Nous avions ensuite préparé la visite. Je leur parlerai de la pyramide. Puis, nous irons voir l'exposition temporaire de Giotto. J'ai trouvé cela intéressant, de commencer la visite par Giotto. Tout ce qui maintenant nous parle, nous préoccupe, nous émeut, avait été exprimé au début du XVIIIe siècle. J'ai montré à mes élèves les visages expressifs, la douleur, la joie, la lutte entre le bien et le mal, personnifiée par de petits anges s'étripant avec des démons au-dessus du Christ crucifié. Puis, nous nous sommes arrêtés devant le triptyque d'un Napolitain de la même époque, peut-être de l'école de Giotto. Il avait donné le mouvement, montré la souffrance et la joie, les sentiments déclarés, sortis de l'ombre, éclatés dans un clair-obscur. Les animaux veillaient sur l'enfant Jésus, dans une tendresse presque anthropomorphique dans la représentation. Mes élèves étaient impressionnés par l'endroit, respectueux, comme s'ils s'étaient trouvés dans un lieu de culte. Ils regardaient sans faire de bruit et me suivaient en silence d'un tableau à un autre. Quand nous sommes sortis de la petite salle de l'exposition temporaire, Mokhtar me dit « Vous les chrétiens avez eu de la chance, l'art a servi de la religion et il en reste quelque chose. Chez nous, toute représentation divine est interdite. » Mokhtar accompagne Tatiana. Ils sont tous les deux à part. Lui est écrivain. Il a rencontré Tatiana quelques années plus tôt dans le métro quand elle visitait Paris avec sa fille. Mokhtar a appris le russe comme il avait appris l'italien, le français et plusieurs autres langues. Et depuis 5 ans que Tatiana habitait Paris, elle n'avait pas eu l'occasion d'apprendre le français. En septembre, elle s'était inscrite au Secours catholique et elle était arrivée dans ma classe. Elle-même professeure, maintenant à la retraite, elle avait été proviseure d'un lycée en Russie. Elle tenait parfaitement ses cahiers et apprenait vite. Après Giotto, Mokhtar nous a quittés, il connaissait déjà le Louvre. Nous sommes allés voir l'ébauche de David, représentant le jeune Bonaparte au moment de la campagne d'Italie. Sur ce portrait, Napoléon est si présent par le regard qu'on pourrait l'imaginer surgir dans la pièce. Il a 28 ans et plus jamais il n'aura la patience de poser longuement pour un peintre. « Mon âge, » dit Chotan. Je leur montrerai encore Charles VII par Fouquet et François Ier par Chloé. Une incursion en histoire de France. Les portraits les regardent. L'artiste a capté une expression dont les yeux, des siècles plus tard, semblent poser sur nous. Que pense Christian, le Vénézuélien, Vasanta, du Sri Lanka, ou Udayan, du Bangladesh, du regard du jeune Bonaparte, ou de celui très froid de Charles VII? Je ne le saurais pas vraiment. Ces hommes ont aimé, je leur dis. Bonaparte le pouvoir, Charles VII Agnès Sorel, François Ier le pouvoir, la vie et de nombreuses dames. On en revient au sentiment. La peinture, c'est une affaire de sentiment. Je ne leur dis pas de cette manière, mais je le leur fais comprendre. Il y a moins de différence qu'on le pense entre une toile du XVIIIe siècle et un tableau de Rothko. Devant la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, ils sont tous restés songeurs. Je leur ai distribué du papier à dessin et des crayons. Je leur ai demandé de dessiner ce qui les intéressait le plus dans cette toile. Ils se sont assis, certains sur le banc, en face du tableau immense, les autres par terre. Ils sont restés là une demi-heure, très concentrés. On a fini le tour de France par la toile qui représente probablement la sœur de Gabriel Destrée, lui pinçant doucement le bout du sein. J'ai senti mes élèves perplexes, mais ils n'ont rien osé dire. J'ai parlé pêle-mêle de renaissance, de mariage forcé entre les princes et les princesses et les maîtresses des rois, de la place laissée aux jeux légers et aux énigmes. Je leur demande au cours suivant quel tableau ils ont préféré. Le grand tableau avec la maman de Jésus. Ils avaient été sensibles à la douleur de la mère dont le fils venait de mourir, qu'ils avaient tous essayé de traduire dans leur dessin. Personne n'avait retenu Gabriel. Extrait du livre « La vie rêvée » de Chotan Bey, de Christine Robion.